France Culture.
À voix nue,
Caroline Brouet.
Bonjour, Simon Abkarian. Je m'appelle Simon Abkarian, je suis comédien, dramaturge, enfin j'écris des textes de théâtre, je fais du cinéma de temps en temps. J'ai 63 ans, je suis né à Garges-lès-Gonesse, dans le 95 Val d'Oise. J'ai deux passeports, un libanais et un français.
Premier épisode, Des racines éclatées. Bonjour Simon Abkarian.
Bonjour.
J'aurais pu intituler cette série « Le chevalier et la rhapsodie ». Un, parce que vous avez un côté chevaleresque, port de tête, chapeau, dignité, fierté, veston, élégance, admiration pour De Gaulle. D'ailleurs, vous êtes assis sous un certain nombre de portraits de De Gaulle, on en reparlera.
Ouais.
Deux, parce que l'art de la rhapsodie imprègne votre théâtre, on le verra surtout à l'épisode 5. Tout comme la musique et la danse font partie de votre vie. Mais j'ai finalement opté pour, peut-être plus posé, une odyssée intime. Et on va comprendre pourquoi au fil de ces 5 entretiens au cours desquels nous allons convoquer le feu du présent et les cendres de l'histoire, les tragédies antiques et celles du XXIe siècle, vos origines arméniennes et votre formation au Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine, vos rôles au cinéma avec Cédric Clapiche, Robert Guédiguian et les autres, vos 7 pièces, Pénélope, ô Pénélope, Ménélas, Rhapsodie, Le dernier jour du jeûne, L'envol des cigognes, Électre des bas-fonds, et nos âmes se reconnaîtront-elles? Et puis ce chant cousu d'humanité qui est votre théâtre. Merci de nous recevoir déjà chez vous, dans votre
bienvenue.
Entre à Paris, dans votre salon, bureau, chambre.
Ouais, c'est ça.
À la déco d'antiquité, il y a des objets, des photos, des livres un peu partout. Mmh. Ouais. Un joli rideau rouge, peut-être presque un rideau de théâtre. Enfin, c'est un rouge théâtre.
Ouais, c'est les costumes qu'il y a derrière, c'est
la
penderie.
Ah bah voilà, vous voyez, costumes derrière. Ce premier épisode est fait pour comprendre ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, en quelque sorte. Donc on plonge en général dans l'enfance, dans les origines, dans les racines. Et je n'ai rien trouvé de mieux, à vrai dire, pour commencer, que de citer une phrase de, je crois, votre amie Ariane Ascaride, comédienne que vous avez fait jouer, notamment dans Le dernier jour du jeûne et dans L'envol des cigognes. Elle dit à propos de vous: c'est un homme d'une sensibilité tellement grande qu'il la protège parfois maladroitement avec une attitude de rouleur de mécanique. Il est à fleur de peau en permanence, très attaché à ses racines arméniennes, à sa famille et à sa mère. Alors il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit. Par quoi avez-vous envie de commencer?
Parce que vous voulez. Rouler des mécaniques, je ne sais pas.
Pas forcément.
Moi, je me tiens droit, quoi. Je me tiens droit. Quand j'étais enfant, justement, pour parler de ça. Quand on était enfant, il y a eu des moments où on avait faim. Enfin, il n'y avait pas à manger, quoi, à la maison. Pendant la guerre.
Liban?
Au Liban, ouais. Et ma mère nous disait, quand vous sortez, vous marchez la tête haute et vous faites bien entendre vos talons sur le sol pour pas qu'on pense que vous êtes dans le besoin. Il fallait pas que ça se voie. Donc, c'est cette pudeur qui fait qu'on la masquerait par une attitude qui devient une seconde nature, ma foi, qui fait qu'on se tient, quoi. On se tient malgré l'adversité, malgré le manquement, malgré une misère matérielle, quoi.
En déjà 3 minutes d'entretien, on a, Simon Abkarian, 3 lieux. 4 avec celui où on est, à Paris. Mais déjà 3 lieux. Votre lieu de naissance, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Le Liban, où vous avez été pendant 8 ans. Et puis, les origines arméniennes, citées par Ariane Ascaride. Alors, peut-être commençons par les origines, les racines, puisque là on voit bien que c'est éclaté, mais commençons par les origines arméniennes. Votre famille était arménienne, et donc vous portez aussi un certain poids de l'histoire, on va dire.
Oui, pas que. Mais c'est normal, parce que c'est... Moi je suis la 3e génération après le génocide, 80% des gens, des Arméniens qui ont survécu, étaient pour 80% d'entre elles et d'entre eux, étaient des orphelines et des orphelins. Donc ma grand-mère et paternelle était orpheline, ses parents avaient été massacrés. Mon grand-père paternel, ses parents et toute sa famille, tout son clan, avaient été massacrés. Et du côté de ma mère, non, parce qu'ils ont quitté. Ils viennent de Moussadar, donc c'est des gens qui ont combattu avant que tous ces villages de cet endroit-là qui s'appelle Moussa Dar, Moussa Ler en arménien, et était secouru par la marine française, l'amiral Dassij de Fournet, qui a sauvé les Arméniens en ouvrant le feu sur les forces ottomanes qui voulaient massacrer les Arméniens. Voilà. Mais c'est de la survie. Donc après, le boulot, c'est d'essayer de faire que ce soit de la vie. Mais c'est ça qui me constitue, c'est ça qui nous constitue. Et c'était aussi de dire il fallait continuer, malgré de la déportation, malgré le trauma de la première génération, qui n'est pas des moindres, parce que ça devient quelques lignes dans les livres d'histoire, mais ça a été une grande, grande, grande catastrophe que de déplacer des gens qui vivaient depuis 2-3 000 ans sur ces terres-là, se retrouvent tout d'un coup jetés sur les routes de l'exil, quoi. Et comme on sait toutes et tous, le pain de l'exil n'est pas toujours le meilleur qu'on puisse manger, quoi, parce que souvent il nous est jeté à la gueule. Donc voilà, c'est de ça que je suis fait au départ. Après, est-ce que c'est lourd à porter ? Pas forcément. Il faut le porter, c'est tout. Il faut inventer, il faut se muscler. Il est intéressant de se muscler, sinon, comment dire, on ploie. Et on ne peut pas vivre voûté. Il faut vivre droit. La colonne, il faut qu'elle se tienne et que la vie puisse continuer. Parce que, indépendamment de tout ça, nous avons continué à pratiquer la joie, les fêtes, nous avons construit nos églises, nos écoles. Je dis églises parce que c'était les églises sous les églises que les premières écoles se sont faites. Il y avait toujours une espèce de grande cave de fondation et sous les fondations de l'église, il y avait toujours des écoles au Liban. Donc les premières choses que font les Arméniens, c'est de construire des églises et des écoles en exil au Liban et ailleurs, à Marseille aussi. Ils ont ressurgi de leurs cendres de cette manière-là par la foi et par la langue et par la culture, enfin la culture, par l'art.
Qu'est-ce qu'il y a d'arménien en vous aujourd'hui ?
Tout.
Votre nom déjà ?
Tout. Oui, mon nom déjà.
Il est important votre nom ?
Oui, c'est important. Bien sûr, c'est important. D'autant plus que ce nom, c'est pas notre vrai nom. Parce que quand mon grand-père sort de ce charnier, il est le seul à survivre de 250 personnes. Et quand il est récupéré par les associations arméniennes qui récupèrent les Arméniens qui sont restés sur place, c'est pour certains en essayant d'être islamisés, tout ça, ou en esclavage, ou en prostitution pour les filles, ou voilà. Mon grand-père, c'est un Kurde qui le recueille, et le Kurde lui dit... D'abord, ils viennent le chercher, c'était les Suédois, je crois, qui sont venus le chercher, mon grand-père. Le Kurde gifle mon grand-père, après l'avoir sauvé, et lui dit, je te gifle... Mon grand-père ne pleure pas, il a 9 ans à l'époque. Il dit, je te gifle pour pas que tu oublies que c'est un Kurde qui t'a sauvé. Et que c'est les Turcs qui t'ont fait ça. Et quand il se présente pour dire... il a oublié son nom de famille, en fait. Et on lui dit, comment s'appelait ton père ? Il dit Abkar. Donc il devient Abkarian, parce qu'il a oublié son nom de famille. C'est plus tard qu'il s'en rappellera. Et voilà. Et c'est ça qui se passe avec mon grand-père, c'est ça qui se passe avec nous. C'est-à-dire, c'est pas un fardeau qu'on se transmet, c'est un relais qu'on se transmet. C'est pas la même chose. Quand vous dites que je suis d'origine arménienne, je suis pas d'origine arménienne. Je suis arménien, arménien. Et je suis français, j'ai un passeport français, mais je m'inscris en faux dans la formule de Charles Aznavour qui dit je suis 100% arménien et 100% français. Pour moi, c'est réduire la complexité de l'histoire. On a plusieurs identités, on a plusieurs mondes en nous, plusieurs langues qui nous constituent. Bon, je suis plutôt une pièce qui roule sur sa tranche et qui ne doit pas tomber ni sur l'une face ni sur l'autre. Elle doit trébucher et sonner jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est vrai que le français, c'est la langue que je maîtrise le mieux. Je dirais même plus, qui me maîtrise le mieux.
Mais vous en parlez au moins 5.
Ouais.
Vous en connaissez peut-être 7.
Ouais, j'en baragouine quelques-unes, mais celle que je pratique le mieux, c'est le français. C'est le français, et de ce point de vue-là, je parle arménien, je parle un peu turc, je parle arabe, je parle un peu grec, je parle un peu... voilà, un peu espagnol, un peu italien. Je me débrouillerais si j'atterris dans ces pays-là, quoi. Je trouverais mon chemin. De dire que je suis une seule chose à 100%, une autre chose à 100%, c'est pas cette chose-là qui...
C'est pas juste.
Non, ça ne me convient pas et ça ne me représente pas.
Vous parlez de cette transmission, ce relais. Presque ce que vous transmettez de génération en génération. je l'entends comme quelque chose d'implicite. C'est presque même les silences qui se transmettent. Est-ce que malgré tout, dans la famille, vos parents, votre père, votre mère, vous parlaient de ce qui s'était passé? Est-ce qu'il y a eu un récit?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et un récit constamment redit et répété, quoi. Parce que, si vous voulez, c'est comme au théâtre, où quand on dit quelque chose à un acteur ou une actrice, qu'on sait déjà, qu'on pense savoir, mais se le redire, se dire une autre fois, c'est se reconnaître une autre fois dans la parole, c'est de se redécouvrir à cette parole-là, à cette chose-là. Il n'y a pas de, comment dire, on l'a dit et puis c'est terminé. J'entends souvent autour de moi, non, on nous a rien dit, etc., etc. Donc, il fallait aller chercher aussi, quoi. Moi, j'étais gratté à la porte des anciens, pas seulement ma famille, mais celle des autres aussi. Les récits, ils se recoupent. On trouve des faits qui sont atroces, ou pas d'ailleurs, ou des descriptions de villes et de villages qui font que les choses se recoupent, quoi. Il faut aller les chercher. C'était très important pour moi dès le début parce que, bon, on a été pétri de ça, on a été pétri de chants révolutionnaires. Il y a des jeunes gens qui sont nés après le génocide, à qui on a donné le prénom Vengeance. Donc des gamins, des potes à moi qui étaient au Liban. Et pour nous, ça, c'était naturel de dire « Vengeance, viens voir, on fait une partie de bille ». Mais tout d'un coup, quand vous venez en France, quand moi je viens en France, je me rends compte que le prénom, surtout quand je commence à faire du théâtre, que les prénoms qui sont donnés aux enfants sont lourds de sens, quoi. Mais c'est en entrant dans l'art du théâtre, l'art des mots, que je comprends. Et puis... voilà, dans cette épopée-là, comment on porte sa langue maternelle qui devient la langue nationale, comment on porte un nom qui devient une espèce d'étendard qu'il faut défendre, l'honneur, etc., etc. Donc tout ça, parfois, c'est fatigant aussi. Et ça peut être même pernicieux et toxique. Donc ces choses-là, il faut... enfin, moi, je ne les brandis pas comme des dépouilles que j'agiterais sous le nez du monde en disant « Regardez ce qui m'est arrivé, il faut réparer ». Non, ça c'est mon boulot intime et pudique de le faire déjà par moi-même. Personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien.
Qui étaient vos parents, Simon Abkarian ?
Mon père et ma mère sont les enfants de leur père et de leur mère, quoi. C'était rudimentaire, si vous voulez. Mon père, ma mère, ce sont des descendants de la deuxième génération. Je pars parce que c'est un moment, c'est comme une année zéro, le génocide. Donc parce que l'arbre généalogique a été tranché à sa base, il va falloir replanter, recréer des noms, certains. Moi, je peux pas remonter à mon arrière-grand-père, par exemple. Après ça, je sais plus qui nous sommes. Mon père, donc, c'est quand je dis rudimentaire, ce sont des gens qui sont attachés à des principes simples, forts, parfois rigides, sur qu'est-ce que c'est qu'être arménien, comment il faut combattre, comment il faut mener le combat pour la reconnaissance, pour même la vengeance. Et les hommes tiennent la verticalité de cette histoire-là et les femmes tiennent l'horizontalité. Ce qui a fait beaucoup souffrir certaines personnes du genre féminin dans mon entourage et ma famille.
Et ce qui explique ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire que la place des femmes, l'histoire et les rapports entre les hommes et les femmes sont constitutifs de vos écrits.
Ben, la vraie héroïne de ma famille, c'est ma mère. Alors que c'est mon père qui tient la cape, l'épée, le bouclier et le casque. Mais c'est ma mère l'héroïne. C'est elle qui nous a sauvés. Voilà, tout simplement.
Et trimballés. Parce que vous êtes donc né ici en France, Simon Abkarian, 1962. Mais vous partez donc au Liban quand vous avez 7-8 ans, 69-70.
9 ans, ouais. J'avais 9 ans. On est parti là-bas. En fait, mon père ne pouvait pas retourner au Liban à cause des histoires politiques. Il était... bon, voilà. Il a pu y retourner plus tard. Je ne vais pas dire pourquoi parce que c'est un peu long et c'est complexe. Mais il a pu y retourner en étant sûr qu'il ne serait pas inquiété par la justice. Et encore une fois, c'était des histoires politiques, c'était pas des histoires de droit commun, jamais. Qu'on retourne là-bas, et moi je découvre un monde, j'avais jamais vu la mer par exemple, je savais pas ce que c'était que la mer. Je pensais pouvoir savoir nager, j'ai plongé, j'ai tout de suite compris qu'il fallait bosser. Et ça c'était assez drôle, j'ai vu les palmiers la première fois de ma vie, j'ai découvert une autre manière de manger, une autre manière de penser, ou parfois pas. Une autre manière de parler, parfois très fort. J'ai vu les armes sortir très vite, les armes à feu. Pour les fêtes, pour le nouvel an, pour Pâques, pour les anniversaires, pour les mariages, pour les enterrements, pour les baptêmes, des armes et des armes et des armes. Donc c'était assez nouveau et parfois fascinant pour moi.
Vous arrivez, vous êtes dans une communauté arménienne, dans le quartier chrétien de Beyrouth,
ouais,
et vous allez à l'école jésuite.
Ouais. Ouais, on allait chez les jésuites parce qu'en fait, si vous voulez, l'école là-bas, en règle générale, il faut qu'elle soit, pour avoir un bon enseignement, qu'il soit à la hauteur des attentes des parents. C'était des écoles privées, l'école publique était en miettes au Liban, elle était en ruine, quoi. Donc, ouais, je me retrouve chez les jésuites.
C'est un bon souvenir, ça ?
Très bon. Ouais, j'avais une belle, enfin, on avait une belle école avec une belle cour, des arbres, des platanes. Il y avait un mur qui nous séparait de l'école des filles, qui était une école aussi religieuse, avec les uniformes et tout, et nous aussi. Et ce grand mur, il y avait un platane avec une corde suspendue, et croyez-moi qu'on était quelques-uns à savoir bien grimper à la corde pour pouvoir.
Pour aller voir de l'autre côté du mur.
Bah ouais. Même si on les voyait dans la rue après, les filles, mais c'était le goût, enfin, c'était plus délicieux que de scalader ce mur et d'essayer de faire des signes aux filles, quoi. Voilà, et j'ai étudié les grands textes très tôt, moi, chez les jésuites. En sixième, on étudiait Hugo, quoi. On récitait Hugo, Musset, enfin, et puis la dictée, enfin, l'écriture, la maîtrise de la langue.
Vous disiez que c'était pour être à la hauteur des attentes qu'avaient vos parents ? C'est-à-dire qu'il y avait une exigence en termes d'éducation de la part de vos parents ?
Non, c'était juste, ils nous disaient, il ne faut pas que vous soyez comme nous. Il ne faut pas que vous viviez ce que nous on a vécu.
Votre père était fabricant de chaussures ?
Il était piqueur de tige, pour être exact. Ouais. La tige étant la partie supérieure de la chaussure, la semelle étant la partie inférieure de la chaussure.
J'attendais que vous soyez plus technique que moi.
Et c'était un idéaliste, mon père. C'était lui, il pensait que le travail était avilissant. Quand il est venu en France, par exemple, mon père, il fallait pointer. Il a toujours refusé de pointer. Il a toujours refusé de pointer jusqu'à ouvrir le crâne du contremaître qui l'obligeait à le faire. Et ils se sont battus. Il lui a ouvert le crâne au gars, quoi. Donc, parce que pour lui, c'était être réduit à l'esclavage, parce que c'était l'esclavage moderne pour lui que de travailler dans une usine et en plus pointer. Donc, il refusait de pointer. Et c'était un artisan, mais surtout, ce qui l'intéressait, lui, c'était, au bout de la rue, faire assembler et l'agora du quartier, quoi, et puis parler du monde. Moi, quand je suis venu en France, j'étais très, très politisé. Je connaissais bien l'histoire de la région et un peu celle du monde, quoi.
Parce que vous le suiviez, votre père, sur l'agora ?
Non, mais c'est la conversation qui continuait à rentrer à la maison. Et le type, il nous tenait des propos. Moi, je me souviens, j'avais 9 ans, il me disait « Ne sois jamais un esclave, ni de la femme, ni de l'argent. » T'as 10 ans. Mais sauf que cette parole, elle te trotte dans
la tête.
Elle
marque, vous en
souvenez ? Elle marque dans la tête. Et puis, moi, j'arrive en France et je répète cette chose-là mécaniquement, sachant que je rate des choses, des amitiés avec les filles et des occasions de gagner ma vie en disant je refuse de faire ce genre de travail. Et encore maintenant, à mon âge, il y a des choses que je refuse de faire pour l'argent.
Voilà. Et en vous souvenant de cette phrase de votre père ?
Ouais, ça reste. Pas que, oui, ça reste. Et puis, il portait toujours des costards, les pompes toujours bien serrées. Ma mère nous disait, il a toujours refusé de vous prendre dans ses bras quand il était habillé en costard parce que ça froissait ses costumes. Donc, mais il avait beaucoup de tendresse pour nous. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants, mon père. Tous les enfants du quartier, ils savaient qui c'était.
Vous avez 13 ans quand éclate la guerre au Liban, Simon Abkarian. 13 ans, c'est tôt. Pour que les bombes éclatent, même si vous disiez que déjà il y avait des armes un peu partout, là c'est quand même pas les mêmes armes et c'est quand même pas la même violence quand la guerre éclate. Vous repartez en France à peu près un an plus tard, je crois vers 1976.
Ouais.
Donc pendant un an, déjà avant, je pense que les tensions communautaires montaient déjà beaucoup. Donc qu'est-ce qui vous en reste de ça ? Est-ce qu'il vous reste de la peur ? Est-ce qu'il vous reste qu'est-ce qui vous en reste de ces moments-là ?
J'y ai jamais pensé en ces termes-là.
Ah oui.
Ce qui me reste, c'est je les mets, je crois que je les mets dans mes textes. Ce qui me reste, en fait, de ça, c'est de comprendre qu'une embrassade, ça peut être un paradis perdu. Qu'un morceau de pain, qu'une tablée, ça peut être un paradis perdu. Que le paradis peut se réduire à ça. C'est ça qui me reste, ça. C'est-à-dire d'arriver à, malheureusement, parce que j'en ai été privé, de comprendre que il faut célébrer toutes les petites choses qui sont acquises pour nous en France ou ailleurs, en Occident, de dire ça, il faut le célébrer, quoi. Parce que ça peut tout d'un coup disparaître. Et la haine peut se réveiller, de quartier à quartier, on peut se tirer dessus, et s'entretuer pour des raisons X ou Y, religieuses ou communautaires ou autres. Donc c'est ça qui me reste de ça. Et puis, comment on apprend vite les armes ? Ça, c'est quelque chose qui... parce que je me souviens...
Vous voulez dire le maniement des armes ?
Oui, ça, ça prend vite la guerre. Très très vite. Kalachnikov, c'est comme un tracteur, hein. En 3 heures, vous savez comment ça marche. C'est pas compliqué, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça va vite, quoi. Ça va vite, et puis on peut tomber dans la fascination de ça aussi, des armes. C'est-à-dire que nous, étant gosses, mon grand frère, il aimait pas les armes. Mais moi, j'étais plus inconscient, peut-être, mais plus subjugué par ça. J'y allais, quoi. J'aimais bien être avec la milice des Arméniens. Parce que chacun, à un moment donné, chaque communauté a sorti ses armes et, pour se défendre, quoi. Sachant que les Arméniens ont essayé, pendant tout le conflit de 19 ans, d'avoir une neutralité, qu'ils appelaient ça la neutralité positive. Du coup, on s'est tapé avec tout le monde. Avec les phalangistes, avec les Palestiniens pro-syriens, avec les Palestiniens pas pro-syriens, avec les Maronites, ça a été fatigant. Et moi, j'ai revu des amis à moi des années plus tard, on a le même âge, ils avaient pris 10 ans dans la gueule, quoi. Parce qu'on vieillit vite pendant la guerre, on mature vite. Et quand vous parlez de 13 ans, et quand j'en viens ici, j'entends les termes, et tant mieux pour nous, quoi, pour la France, pour l'Europe, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, nous, on n'a pas eu le temps de la faire, quoi. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de se rebeller. De toute façon, se rebeller de quoi ? On vivait sur le strict minimum au Liban. Moi, j'ai jamais eu chez moi de placard plein de bouffe, quoi. Il y avait l'épicier du coin, et puis on achetait chez lui un peu de sucre, un peu de café de temps en temps. Et quand la guerre a éclaté, très vite, toutes les maisons, tous les foyers, très vite, ils n'avaient plus rien à manger, quoi. Donc il fallait faire venir du marché noir, des camions pleins de ceci, pleins de cela, des cigarettes, du café, des légumes, de la viande. Mais c'était devenu un autre sport, quoi.
En fait, vous avez appris assez tôt ce que Sandra, je crois, a dit, c'est-à-dire dans la bouche d'Ariane Mascaride, on y revient, que la vie est un combat. C'est ça finalement qui est ancré.
Ouais, la vie est un combat, mais c'est un combat c'est collectif. Dans ce collectif, il y a les solitudes respectives de chacun et de chacune, mais ouais, c'est un combat. Et c'est comprendre où on est et avec qui on est, quoi. Quand on arrive en France, moi, je comprends très vite où on est. Quand je rentre au Théâtre du Soleil, je comprends très très vite où je suis. Parce que quand on est dans des espèces de vouloir vivre à tout prix, les sens se démultiplient. On va très vite dans de dire, tiens, ça, il faut pas que je passe par là parce que j'ai pas les papiers. De reconnaître les flics qui sont là parce que j'ai pas encore mes papiers. Ou simplement de pas faire ci parce que je sais que les gens qui m'accueillent, ça leur plaît pas, donc je le fais pas, quoi. Voilà. Ou qui m'accueillent pas tout le temps non plus. Donc c'est aussi de se déguiser en absent, quoi. Quand vous dites combattre, c'est de disparaître, de pas se faire remarquer. C'est pas seulement de l'intégration, que ce soit bien clair, parce que s'intégrer, c'est une chose, c'est un mot un peu global comme ça. Les gens qui s'intègrent aussi, ils se font discrets. C'est raser les murs de son propre intérieur, quoi. Moi, il m'est arrivé des trucs où, quand j'étais à Los Angeles, je vivais là-bas, j'avais pas de papier non plus. C'est une manie, décidément. Mais ça, c'est le propre des gens qui partent en catastrophe, qui foutent quelques sables dans quelques valises et qui s'arrachent avec un passeport valable, mais sans une thune, quoi, sans argent.
Avant Los Angeles, Simon Abkarian, il y a eu la France, il y a eu Paris, puisque vous rentrez avec votre mère et vos frères et sœurs. Votre père reste au Liban.
Ouais.
Mais vous rentrez, votre mère a fermé, je crois, 19 fois la porte
de la maison, ouais.
Derrière elle, pour vous emmener et pour vous garder avec elle. Donc vous rentrez en France en 1976. De quoi vous souvenez-vous à l'arrivée ? De ses premières années.
C'était l'été, c'était les Jeux Olympiques de 76, c'était la sécheresse en France, et c'était Guy Drut qui avait gagné les 110 mètres haies. C'est ça mes souvenirs. Ça c'est mes souvenirs, et c'est Paris vide parce que c'est l'été. Et c'était magnifique, magnifique. C'était dans le 15e arrondissement, rue Lourmel. On avait atterri chez des gens, des amis à nous, des Arméniens de Constantinople, qui étaient des amis de la famille du père d'Aznavour. C'est toute cette communauté arménienne un peu ancienne qui étaient les amis de la famille. Donc ils nous ont hébergés pendant un temps jusqu'à ce qu'on trouve du travail. Ma mère, moi, elle a trouvé du travail. On a loué une maison sur la Nationale 20 à Cachan et ensuite à Bagneux. Et voilà, et puis tout doucement, ça s'est fait comme ça. Du coup, moi, ma scolarité, elle a pris un coup dans l'aile, quoi.
Ça veut dire que vous avez arrêté ?
Non, mais...
C'était tout dur ?
C'était... J'ai commencé à fréquenter des gens qui étaient, voilà, on traînait dans la rue, on aimait le rock'n'roll, on s'habillait avec des sapes des années 50, enfin, etc. Et puis, j'ai décroché, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez pas mal tourné, comme dit la chanson de Brassens?
J'ai pas mal tourné parce que je savais très bien que ce qui se passait, si c'était juste ou injuste, si c'était bien ou mal, quoi. Enfin, pour parler un peu simplement. Et puis mon éducation, enfin... Chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à la justice, mais jamais pour le droit commun, voilà. Donc, je pouvais pas prendre ce chemin-là, quoi. C'était pas possible pour moi. J'avais toujours la voix des morts ou de mon père ou des autres, ou de mes grands-mères qui étaient là, quoi. Donc, c'est ça, pour moi, c'était impossible. Et je savais, je me suis retrouvé dans des situations un peu, parfois, pas toujours très élégantes, quoi. Dans la rue, à des bagarres rangées, des machins, dans des bars, à casser des bars, etc., etc. Mais toujours pareil, avec une espèce de panache comme ça. Enfin bon.
Et... J'ai pas dit, parfois les mains volent quand vous parlez.
Ouais. Mais donc, non, je peux pas me permettre. C'est pareil pour la drogue, c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour tout. Je me suis jamais fait manger ni avaler par quoi que ce soit, quoi. J'ai jamais. Je comprends la pauvreté, je l'ai été. Et au Liban et en France, pauvre, quand je dis pauvre, pauvre, quoi. Pour redire ce que disait ma mère, par exemple, nous n'avions pas de télévision quand on est arrivé en France. Et on allait à l'école. Et moi, j'avais trouvé une technique. J'achetais le télépoche. À l'époque, il y avait le télépoche.
Un petit livret dans lequel on avait toutes les sorties.
Voilà, toutes les sorties cinéma. Et les programmes télévision, il y avait le résumé sous chaque film. Du coup, je lisais le résumé des films. Et puis, le matin, quand j'allais à l'école, les gens disaient « T'as vu le film hier ?» Tout ça. J'écoutais. Et puis, à force de voler des bribes et avec le résumé, je disais que je l'avais vu. Bon, c'était du mensonge, mais pour préserver ma fierté, quoi. Il fallait que je sois à la page, quoi. Que les gens, à aucun moment, ils s'apitoient sur moi. À aucun moment.
Alors, ce père, Simon Abkarian, que vous avez laissé au Liban, vous le retrouvez aux États-Unis,
ouais.
Un peu plus tard, à la fin des années 70, début des années 80.
Ouais.
Vous partez le rejoindre, d'abord à Boston, puis donc à Los Angeles. Vous voilà à Los Angeles. Et là, vous devenez certisseur de bijoux.
Ouais. Parce que les Arméniens, c'est les artisans. Et l'histoire de l'artisanat des artisans arméniens, ils sont très très forts au Liban et en Syrie, parce qu'en 56, il y a eu encore des pogroms anti-arméniens, anti-grecs et anti-antisémites, où ils ont chassé les commerçants arméniens. Donc il y a beaucoup beaucoup de maîtres geôliers qui sont venus au Liban et en Syrie, qui ont formé toute une génération de jeunes gens, tant et si bien que les parents payaient les maîtres artisans pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants. Mais moi, j'étais trop vieux. Ça, c'était au Liban. D'ailleurs, j'ai plein de copains qui ont bossé après la guerre, qui sont venus ici sans être sortis des écoles de joaillerie française. Ils bossaient chez Bulgari, chez Cartier, enfin, tous les grands noms de la joaillerie française. Mais moi, j'étais trop vieux à Los Angeles, c'est-à-dire pour subir, parce que c'était dur, quoi. Les artisans là-bas, ça rigole pas, quoi. C'est des gens très très durs, très très durs.
Non seulement vous étiez trop vieux, comme vous dites,
mais moi je supportais pas ça. J'étais trop vieux pour le supporter.
Mais en plus, vous faites la rencontre d'un certain Gérald Papazian qui dirige une troupe de théâtre.
Ouais.
Et là, il va se passer ce qui va se passer dans l'épisode 2. On verra ça demain.
Ouais.
Merci Simon Abkarian.
C'est moi qui vous remercie.
À suivre l'épisode 2, un regard plein de promesses. C'était À Voix Nue avec Simon Abkarian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Eric Audra, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.